Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère sur le 88.4 dans l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices des transitions écologiques et solidaires en collaboration avec La Forêt des Possibles, qui est un projet de société qui invite chacun et chacune à trouver sa juste place dans une société où vivre dignement et qui retisse les échelles d'action, des questions individuelles vers les questions territoriales et des questions territoriales vers les questions sociétales. Et donc, nous cheminons du moi au nous et du nous au tout. Et ce soir, je suis donc Marin, accompagné en régie par Gilliane et Claire, et notre invité du soir est Hugo Maurer. Hugo, tu fais une cifre avec NéoEco, avec une thèse qui est sur le sujet de la réhabilitation écologique des égalades en sciences de l'environnement. Bonsoir et merci.
Bonsoir Marin, merci pour l'invitation.
Et alors, sachez pour celles et ceux qui nous écoutent que peut-être que je peux paraître un peu au début hésitant dans mon phrasé parce que j'entends un drôle d'écho dans mon casque, et donc j'espère pour vous toutes et tous qui nous écoutez que ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est en régie, nous sommes en train de régler cette question. Mais on va quand même débuter l'émission, et comme je le disais dans mon introduction, l'enjeu ça va être de pouvoir cheminer de passage d'action vers ton parcours, vers ensuite les projets que tu as menés, et puis comment est-ce que ces projets eux-mêmes participent à une transformation de la société à certains endroits. Et on va suivre un fil narratif, donc, qui est souvent du moi au nous et du nous au tout, et ici qu'on va construire autour de l'idée d'un ruisseau. Et on va suivre ce courant-là, qui va d'abord être de l'ordre de la métaphore sur le ruisseau de ton chemin, avant, on en parlera après, de rentrer sur un des ruisseaux symbolique et emblématique de la ville de Marseille, qui est le ruisseau des Égalades. Mais je vais commencer par te proposer de pouvoir présenter ton parcours, présenter qui tu es, quelles ont été les grandes questions que tu t'es posées avant de mener le projet que tu nous présenteras juste après.
Vaste question, effectivement. Pour commencer, l'histoire d'un parcours qui est tout jeune, je suis dans ma trentaine tout juste, donc du coup je suis un bébé au niveau d'une vie d'homme. Mais j'ai commencé en gros mes études en abordant des questions d'ingénierie et de politique environnementale, et assez rapidement je me suis spécialisé sur les questions d'économie circulaire. Une thématique qui était encore un peu nouvelle dans les politiques publiques, mais qui avait fait quand même son chemin dans la littérature scientifique. Et j'ai commencé à travailler avec un institut qui s'appelle l'Institut National d'Économie Circulaire. Donc c'est un centre, on peut dire un think tank, si on utilise un mot anglais, c'est un centre de recherche en politique publique, où l'objet c'était vraiment de faire du lien entre les acteurs du monde socio-économique et notamment le monde politique. Donc c'était vraiment de travailler sur du plaidoyer politique. C'était extrêmement intéressant, très enrichissant, mais j'avais quand même le sentiment, malgré tout, et avec tout le respect aussi que je dois à ce type d'institution, que c'était beaucoup de Yaka Faucon. Mmh. Travailler depuis Paris aussi, où c'était beaucoup de gestion de réseau, où l'idée c'était de faire avancer des politiques RSE de grands groupes, c'était de voir comment est-ce qu'on peut, dans des amendements précis, faire avancer une thématique un peu ponctuelle. Et j'avais vraiment l'impression que c'était difficile d'aller sur des choses qui étaient de l'ordre de quelque chose que je pouvais toucher, où mon action avait un effet concret. Et j'avais toujours cette envie aussi d'un jour ou l'autre de faire de la recherche et de pouvoir prendre le temps, tout simplement, de me lancer sur quelque chose qui serait un projet de territoire. Et du coup, suite à ce travail à l'Institut de l'économie circulaire, j'ai pu effectivement expérimenter des choses dans le monde des institutions, en travaillant à la métropole du Grand Paris, en faisant atterrir une politique d'économie circulaire au sein du service du développement économique. C'était très enrichissant, très intéressant. C'était une métropole qui était jeune encore. On était peu nombreux, donc c'était un peu un côté commando où on allait au front. En tant que chargé de mission, on se retrouvait très vite avec des niveaux de décision qui nous dépassaient. Donc c'était très enrichissant. Mais quand même, encore une fois, grosse machine institutionnelle. Et donc suite à ça, est venue l'envie aussi de prendre de la distance par rapport à toutes ces expériences-là et de se lancer dans un grand voyage avec ma femme. Tout fraîchement, c'était après notre mariage, donc là c'est très personnel, mais si elle m'écoute, je lui fais un petit clin d'œil. Donc on est parti en Amérique latine et on a pris 8 mois pour justement prendre le temps, se retrouver et puis comprendre ce qu'on souhaitait faire dans la suite aussi de notre vie. Et lors de ce voyage, beaucoup de rencontres m'ont fait comprendre que cette capacité que je pouvais essayer de déployer au niveau de mes questions pouvait s'incarner sur les questions de biodiversité, de vivant. Donc, l'économie circulaire, c'était beaucoup de matériaux, beaucoup de flux, c'était très technique. Et je souhaitais ouvrir cette conversation avec le vivant.
Tu as une rencontre avec une approche plus sensible de tous les sujets que tu abordais jusqu'à présent et peut-être un pas de côté dans la perception que tu pouvais en avoir jusqu'à présent ?
D'une certaine façon. Après, je pense que le côté sensible, il a toujours été présent chez moi. J'ai aussi quand même vu que les premières actions, elles étaient quand même dans des institutions politiques où la question du récit, la question de comment est-ce qu'on peut porter un message, c'était quelque chose qui était très important. Donc, d'une certaine façon, c'était présent. Là, je voulais vraiment pouvoir mettre ça plus en avant et d'aller explorer ça aussi avec les différents collectifs et avec aussi un côté ancré qui était beaucoup plus fort. À mon sens, enfin, j'avais vraiment cette envie d'ancrer en fait ma recherche sur un territoire.
Et donc en rentrant, tu as donc décidé de vouloir continuer sur la recherche, sur un ancrage qui est ici à Marseille, et avec une thématique au départ qui était celle du foncier non utilisé.
C'est ça. En fait, l'idée sous l'angle de l'économie circulaire, c'était de se dire comment est-ce que dans les projets d'aménagement et dans les projets, surtout les projets de réhabilitation écologique ou les projets de où on essaye de renforcer ce qui va être les fonctionnalités écologiques, c'est-à-dire la capacité du vivant à perdurer, en fait. Je me disais que aujourd'hui dans les grandes métropoles, il y a de nombreux fonciers qui sont encore sans projet. Et donc je souhaitais venir avec créer une expertise au sein des institutions. Donc l'objectif à la base c'était de travailler au sein des métropoles, de la ville ou du conseil départemental, j'en passe et des meilleurs, pour justement faire émerger cette question en disant ces espaces-là, dans quelle mesure on arrive à mettre en place une stratégie qui permette de protéger notamment les sols, de protéger les sols vivants. Parce qu'un sol vivant, ça met des milliers d'années, 1500 à 2000 ans, à vraiment se reconstituer si on part d'un sol qu'on peut dire inerte. Toujours une partie de vivant, c'est ça qui est fabuleux dans le sol. Mais en tout cas, de partir d'un sol qui est très pauvre vers quelque chose de constitué et de vivant, ça prend des milliers d'années. Et donc, comment on arrive à justement mettre en place une stratégie territoriale qui permet de dire on rationalise certainement d'une façon la capacité de projeter les projets. Là, c'était de dire, voilà, dans les fonctionnalités écologiques, dans les continuités écologiques, dans ces trames vertes, ces trames bleues, comment les forêts arrivent à discuter ensemble par des corridors, comment est-ce que les rivières arrivent à s'épaissir, et comment est-ce qu'on arrive à retrouver une naturalité autour des rivières qui, surtout en ville, sont très contraintes, très anthropisées. Il y avait cette volonté d'ouvrir une conversation finalement entre la matière, le sol vivant et la biodiversité.
Alors est-ce que tu peux nous donner quelques définitions, je vais te demander quelques termes à définir pour les personnes qui nous écoutent et peut-être qui ne savent pas ce que c'est qu'une trame bleue, première définition, oui. Une trame verte, deuxième définition, ce que c'est qu'être anthropisé, troisième définition, et après qu'est-ce qu'une rivière qui respire ? Allez, sur ces quatre mots-là.
Allez. Donc, trame verte, trame bleue, on va les définir ensemble. En gros, c'est des mots qui permettent de pouvoir conceptualiser la façon dont les espaces naturels sont connectés entre eux. C'est pour ça qu'on parle de continuité écologique. C'est que, par exemple, une forêt qui a une grande surface avec une forte naturalité et beaucoup d'espèces, beaucoup de vivants, beaucoup de biodiversité, eh bien, cette forêt-là, si elle est toute seule, encerclée de routes, coupée par des chemins, par l'urbanisation sous pression, finalement, et que du coup, elle est complètement resserrée, elle ne peut plus discuter avec l'extérieur. Les espèces vont rester entre elles et du coup, par suite, par le temps, en fait, il va y avoir un appauvrissement de la diversité génétique. Donc là, c'est des termes qui sont un peu techniques, mais l'idée, c'est de se dire, si on n'arrive pas à se déplacer, si la vie ne se déplace pas, eh bien, la vie meurt. Donc il faut que pour que la vie se déplace, il faut des continuités, il faut des chemins sécuritaires où on peut finalement se nourrir et se reproduire. Et quand je dis on, c'est toutes les espèces vivantes, que ce soit les plantes, les animaux. Et donc les trames vertes, c'est pour les forêts, donc c'est les continuités écologiques, c'est les haies par exemple, qu'on essaye de protéger et de renforcer dans nos bocages. Mais ça va être aussi les rivières avec les trames bleues, où là il y a une vraie richesse le long des rivières. Et là un autre terme qui va arriver et que je risque de faire émerger encore, c'est la ripisylve, cette rivière qui coule, ces forêts qui coulent le long des rivières, où il y a beaucoup de richesses parce que l'eau c'est la vie. Et derrière, l'autre terme dont tu me parlais...
Anthropisé,
c'est l'action de nos sociétés sur les espaces naturels. Donc, les pressions en fait, que nos sociétés impriment sur les espaces naturels.
Et une rivière qui respire ?
Une rivière qui respire, c'est une rivière où il y a justement de nombreuses fonctionnalités écologiques, donc de nombreuses relations et interrelations entre le vivant. Car le vivant, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui bouge, qui vit. Et donc, si on veut avoir une rivière qui respire, il faut que la rivière puisse être vivante, il faut que les plantes puissent se déployer, il faut qu'il puisse y avoir toutes les interrelations entre les plus petits éléments vivants et les plus gros éléments.
Et donc,
par ailleurs, tu parlais des avantages sur le vivant des trames bleues, des trames vertes. Mais il y a aussi un bénéfice pour les habitants des villes de pouvoir bénéficier de ces espaces naturels, non ?
Alors là, on rentre dans un sujet qui est très intéressant et qui est central dans ma question de recherche. C'est la question, effectivement, de ce qu'on appelle, c'est encore un autre jargon, mais ça s'appelle les services écosystémiques. C'est les services rendus par la nature aux populations. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on manque, surtout chez nous à Marseille, de lieux refuge, de lieux où on arrive à avoir une température qui soit correcte, où on arrive à avoir une humidité qui soit maîtrisée, surtout en été, des espaces où on arrive justement à respirer, discuter et où on peut s'épanouir aussi. On a besoin de ce contact avec la nature, à mon sens. On l'a senti dans les Covid, on était confinés chez nous, on n'avait qu'une envie, c'était de retrouver les espaces, notamment les espaces de naturalité autour de Marseille, les calanques, les massifs. Et donc, effectivement, il y a ce lien très fort entre la société et ses espaces naturels, surtout en ville.
Et pour continuer la question de la rivière sous la forme de la métaphore qui est celle de la trame rouge de ton parcours, tu nous disais que tu avais commencé cette recherche-là et puis qu'à un moment, tu es allé voir les institutions et que les institutions te disaient qu'elles étaient intéressées sans forcément pouvoir tout financer. Et donc, ça serait intéressant que tu puisses nous expliquer ce qui se passait là. Et comment est-ce qu'ensuite, tu as eu une espèce de révélation sur ton parcours par rapport à un endroit incarné qui t'a permis de catalyser la suite de ces réflexions ?
En gros, les questions qui m'intéressaient et qui étaient renforcées aussi par les nombreuses discussions que j'avais avec les scientifiques autour de moi, et notamment mon maître de thèse, un de mes maîtres de thèse qui est le directeur de thèse, qui est Thierry Tatoni, ça a été de me rendre compte, en fait, au final, que si on travaille sur des lieux qui n'ont pas de projet, donc ça, c'était l'idée initiale, hein, de travailler sur ces friches, mais qui sont des friches agricoles, des dents creuses au sein de l'urbanisme un peu chaotique que marseillais. Mais en fait, ces espaces-là, s'ils n'ont pas de projet, eh ben, on n'a pas d'interlocuteur en face, ou très peu. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui est intéressé pour bosser sur cette question. Ce qui m'a, du coup, un peu pénalisé en fait dans le montage de mon projet parce que j'arrivais pas à trouver un interlocuteur. Donc j'ai quand même beaucoup discuté et porté notamment lors d'un diplôme d'études universitaires un mémoire de recherche qui travaillait justement sur ces questions avec les décideurs. Donc j'ai pu avoir beaucoup d'interlocuteurs, hein, c'est pas le sujet, mais derrière, au moment où il s'agissait de faire atterrir et de pouvoir vraiment porter le projet au sein de l'institution, c'était compliqué. On était, encore une fois, je le rappelle, on était en plein suite au Covid, gros resserrement d'activité, c'était compliqué d'embaucher. Et donc, j'ai beaucoup travaillé un peu à blanc. Et je sais que c'est compliqué parce que j'ai bossé au sein des institutions aussi, de faire émerger un projet s'il n'y a pas de commande politique ou si derrière, en termes de budget, ça n'existe pas, il faut trouver. Enfin bref. Mais par contre, ce que j'ai compris, c'est que au sein des discussions, les institutions disaient ces sujets nous intéressent, si on pourrait travailler sur des études, on pourrait financer des choses. Donc finalement, je suis allé voir un bureau d'études qui est Néo-Éco, J'ai eu plusieurs bureaux d'études, mais il n'y en a que un qui m'a dit « Ok, chiche, on y va ». Parce que c'était un peu une gageure. Et donc NeoEco, bureau d'études spécialisé sur les questions d'économie circulaire, mais très orienté matériaux. Très orienté montage de filières de valorisation, recyclage, réemploi, caractériser la matière, ingénierie des procédés et des matériaux. Donc quelque chose de très techno et très d'ingénierie. Et moi, j'arrivais avec mon projet où je disais bah, ce serait intéressant aussi d'ouvrir une conversation entre la matière, la biodiversité. Je pense qu'il y a des sujets, notamment sur la gestion des espaces naturels, la réhabilitation écologique, les cours d'eau. Il y a beaucoup de travaux. En fait, ces travaux, ils émettent une quantité de déchets ou de ressources à valoriser. Donc, je n'aime pas trop parler de déchets, mais plutôt de ressources à valoriser. Et donc, je suis allé voir NeoEco en leur disant bah, voilà, je pense qu'il y a un sujet là-dessus. Et donc, ils ont dit ok, on tente le pari. Il y a une agence qui est en train de se monter en plus à Marseille, donc là je rejoins mon collègue Robin qui est devenu un très bon ami aussi, et on se lance dans cette aventure commune de monter l'agence Méditerranée de NeoEco avec ce premier axe de travail au-delà du premier projet qu'on avait où on travaillait sur une plateforme de valorisation avec la SNCF, donc un truc très concret de dire comment on arrive à ouvrir cette conversation matière biodiversité. Et donc là, pas facile, mais j'avais quand même pas mal de relais en termes de réseau. Mais surtout, il y a eu des rencontres qui ont cristallisé cette capacité à travailler sur ces questions. Et ça a été notamment le collectif des Gamards. Donc là, on peut parler un petit peu aussi de ce collectif-là, qui a été une rencontre hyper forte pour moi aussi. Un collectif d'habitants, de chercheurs, d'artistes marcheurs, d'associations comme Hôtel du Nord. Tous ces gens-là qui ont en fait donné des voix, pas une voix, mais des voix, une polyphonie finalement à ce ruisseau, et qui font émerger des récits vernaculaires, des récits, des légendes, et qui permettent en fait de prendre soin de ce ruisseau par des approches sensibles. Ça a résonné instantanément chez moi et je me suis dit mais quelle chance de pouvoir trouver ce collectif-là qui n'a pas vraiment de forme, c'est pas une association, c'est que des gens qui se rencontrent et qui essayent de faire des choses, et de pas perdre en fait pied avec un lieu. Tu parlais justement de ce lieu et de ce périmètre de recherche qui a été le mien et qui est atterri au cours justement du montage du projet de recherche, ça a été le cours d'eau des Égalades, pour reboucler sur cette question du périmètre de recherche. Et ce cours d'eau des Égalades, voilà, les Gamards m'ont permis de ne pas perdre pied avec justement ce côté sensible et de pouvoir faire émerger cette sensibilité-là vers les questions qui étaient les miennes, notamment les relations avec les décideurs.
Et nous, dans cette forêt des possibles où on aime tisser des liens entre les personnes et les structures qu'on reçoit et de montrer en quoi est-ce qu'elles sont connectées, eh bien, sachez qu'il y a le collectif des Gamards qui a été reçu à ce même studio il y a 2 ans avec Antoine et Agnès, si jamais vous voulez retrouver l'émission qui était, il me semble, en novembre ou décembre 2021, si jamais ça vous intéresse, et qui, moi, m'avait énormément marqué par leur présence dans ce studio-là, par la joie qui dégageait de façon instantanée, communicative, des histoires qui se racontaient, de la façon dont ça leur avait fait du bien que de se retrouver au bord de ce ruisseau, notamment pendant la période du Covid qui avait été compliquée pour eux et qui était vraiment un espace de respiration. Et alors, tu nous disais pour toi qu'il y avait quand même quelque chose qui était important dans cette rivière, c'était son état. Et que tu avais vraiment envie de pouvoir l'exprimer un peu ici à la radio, parce que c'était quelque chose qui était marquant, notamment par son côté assez délabré et mis sous terre.
Invisibilisé. Donc c'est peut-être des choses... Alors, encore une fois, les discussions font que on s'inspire les uns des autres, et effectivement Antoine et Agnès... beaucoup de leurs mots font aujourd'hui partie de mon vocabulaire, et je les remercierai jamais assez aussi et puis des Gamards en général, et peut-être toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans les différents collectifs pour justement en fait trouver des idées qui résonnent et porter un message dans les projets qui sont des projets de recherche un peu spécifiques. Donc bref, par rapport à cette histoire du ruisseau, donc il faut comprendre, si on reprend un peu une analyse un peu historique et même géologique du lieu, ce ruisseau, il est né en fait d'un mouvement de plaques tectoniques, donc vraiment la capacité des sols à bouger, à se métamorphoser, à travailler et à créer la topographie qui est cette espèce de cirque marseillais avec les massifs collinaires qui entourent cette rade de Marseille. Et donc il y a le massif de l'Étoile et le massif de la Nerthe qui se rencontrent, et par cette rencontre, il y a un affaissement qui se fait avec un col où il y a la L2 qui passe aujourd'hui. On rejoint Aix, on rejoint Paris si on trace vers là-haut. Mais historiquement, en fait, ce col, c'était un des premiers lieux pour justement rejoindre les routes commerciales. Et donc, c'était l'endroit le plus pratique et facile d'accès pour rejoindre, pour sortir finalement de cette rade marseillaise, pour aller vers ces lieux-là. Après, on va vers Aubagne pour rejoindre Toulon et puis les autres pour rejoindre plus le Var. Mais du coup, cette espèce de décaissement et ce travail géologique a fait que la rivière est venue, elle a pu couler ici avec les différentes sources. Donc là, on parle de bassin versant où les différentes sources se rejoignent toutes pour alimenter un cours d'eau principal, cours d'eau qui va se jeter dans la mer directement. Donc on parle d'un fleuve côtier, un fleuve, alors que si vraiment on connaît un peu les Égalades, c'est vraiment un ruisseau, quoi. Enfin, mais bon, la définition d'un fleuve, c'est je me jette dans la mer, donc c'est un fleuve côtier. Et on en est très fiers. Il fait 17 km. Et en fait, le long de ces 17 km, il y a tout un tas d'enjeux socio-écologiques qui sont extrêmement prégnants, extrêmement intéressants et passionnants pour un collectif qui s'intéresse à la transition écologique des villes. Mais donc, du coup, ce chemin qui permet de sortir de Marseille, c'est aussi un chemin où il y a de l'eau qui coule. Cette eau, c'est de l'énergie pour des moulins, donc pour transformer de la matière, et c'est aussi de l'eau pour l'irrigation. Donc en gros, il y a toute une activité productive qui se fait le long de cette rivière. Ce qui explique pourquoi les quartiers nord sont si industrialisés aujourd'hui. Ce qui explique aussi pourquoi on a ces passifs industriels si forts avec finalement ce lien avec cette rivière. Donc, je vais très vite là en termes historiques parce que l'émission est courte et je pourrais m'arrêter des heures là-dessus. Mais en gros, l'histoire même du ruisseau, l'existence du ruisseau explique pourquoi les quartiers nord sont si industrialisés. Et voilà, la chute d'une forme d'industrialisation, la fin des colonies, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui l'activité productive des quartiers nord de Marseille est moins importante, le fait que aussi le grand port maritime sort des activités productives pour aller plus vers Fos, bref, toutes ces histoires-là expliquent aussi pourquoi il y a tant de friches. Mais si on remonte le long de la rivière et qu'on fait l'histoire, quand même à la source même de la rivière, c'est la farge qui produit des granulats, qui capte l'eau de la rivière pour ses process, notamment pour épandre de l'eau et éviter qu'il y ait de la poussière. Mais en fait, la farge construit nos villes aussi. Donc là, on est en plein dans des paradoxes qui sont très forts. On a besoin de ces granulats, on a besoin de ces sables, de ces cailloux pour construire notre ville. Mais on a besoin de l'eau aussi pour vivre, on a besoin de ces espaces de naturalité pour vivre. Et donc, il y a cette espèce de... Voilà, c'est compliqué, quoi. Et on descend un petit peu, on se retrouve avec les anciennes friches du Clos, avec des pollutions métalliques très importantes. On descend encore, il y a Spipharma qui produit du gaviscon, pansement gastrique. Donc là, pour tous ceux qui ont un peu des problèmes d'estomac, on connaît le gaviscon. Bon, bah, ce gaviscon, il produit aussi des effluents très chargés en termes de sel. Et donc, du coup, on a un impact qui est très fort. On descend encore, il y a un crassier de Beau Rouge. On descend encore, enfin bref, tout un tas de passifs qui fait que cette rivière... assez rapidement, c'est devenu un tout à l'égout. Mmh. Et c'est la CERAM qui gérait ça, CERAM qui gère les eaux usées à Marseille. Aujourd'hui, il y a un changement par rapport à la gestion de ce lieu. Ça a été, ce fleuve côtier orphelin a été adopté par un établissement public qui doit s'occuper justement de la réhabilitation de ces ruisseaux. Et donc, c'est l'EPAGE UCA pour Uvonne, Côtier et Galade. Et donc, il y a une nouvelle histoire à raconter avec cette rivière qui commence tout juste. Et cette histoire, elle doit aussi passer par cette approche un peu qui part du territoire, qui va du nous vers le jeu.
Du moi au nous, voilà, et du nous au tout, et effectivement qui s'enracine quelque part. En tout cas, c'est ce que nous, on a aussi envie de pouvoir faire là-dessus. Et ce que tu nous disais en préparant l'émission, c'est que une des façons de pouvoir discuter avec les décideurs, c'était d'apporter un récit et de pouvoir mettre une approche plus sensible dans la technique, qui est une façon de pouvoir embarquer des citoyens, embarquer de la médiation entre la science et la société, entre l'art et la science. Et je t'invite, juste avant la pause, à pouvoir un peu présenter cette intention-là, oui, avant qu'on puisse avoir quelque chose d'encore plus expérimental après cette pause-là. Mais vas-y, je te laisse.
En gros, y a, lors des discussions que j'ai eues au moment où je m'intéressais à l'histoire de cette rivière et à la façon dont les différents collectifs ont agi, en gros, les Gamards, à un moment, c'est lancé des études au moment de préfigurer surtout le parc des Égalades, le futur parc des Égalades qui est piloté par Euroméditerranée, qui est quand même un sujet central dans la réhabilitation écologique de ce, de cette rivière, parce que la rivière, comme je disais, c'est un tout à l'égout, donc elle est buzée, c'est-à-dire qu'elle est canalisée, et même à des endroits, c'est complètement recouvert, on ne sait pas qu'elle existe. Bien sûr, le foncier du Canet, qui est un foncier ferré, donc un faisceau ferré, on doit tout ouvrir pour faire revenir un parc urbain. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, il y a Euroméditerranée, aménageur, qui se dit, bah, nous, on aimerait bien que les enfants se baignent, enfin bref, des projections d'urbanistes, en fait, et de dire, voilà, ce parc doit devenir un ouvrage hydraulique pour gérer les crues, quand la rivière s'exprime trop fort. Et bien, ça, une des fonctionnalités de ce parc, c'est de gérer les crues, mais c'est aussi d'avoir un espace de vie, un lieu-refuge dont je parlais tout à l'heure. Et donc, au moment où il se pose la question de la programmation, donc comment on va faire ce parc, une proposition, ça a été de dire, ok, aux décideurs, donc toute petite équipe, avec des services techniques, des décideurs et des artistes marcheurs notamment, et des gamards et des scientifiques, de descendre dans la rivière et de remonter la rivière, de mettre des waders, de mettre les bottes et de remonter la rivière pour qu'ils comprennent la complexité que c'est d'avoir des enfants qui pataugent dans une rivière aux Égalades, au futur parc des Égalades. Et là, ça a fait tilt. Et en fait, cette capacité où la réalité, elle te percute de plein fouet et où elle arrive et elle fait vibrer une corde sensible, on sent que c'est à partir de là que dans notre métier de tous les jours, on peut avoir un rôle qui change les choses. Et donc, en fait, cette expérience qui a été faite avec les gamards et notamment le bureau des guides a permis aussi de lancer une dynamique le long des Égalades qui a été très particulière avec Euroméditerranée en force un peu innovante ou porteuse sur ces questions-là. Et aujourd'hui, ça a fait du chemin. C'est remonté, redescendre du ruisseau, ça a été ouvert à des services techniques de la ville, de la métropole. Donc du coup, cette sensibilité-là a permis aussi, cette approche sensible en fait de la rivière a permis aussi de faire évoluer les pratiques et les considérations des institutions dans le cadre de ces projets de territoire. Et moi, c'est ça qui me passionne.
Merci Hugo. Tu nous parlais tout à l'heure de rivières qui respirent, et nous, sur notre propre cheminement, on va prendre un temps de respiration lors de cette émission où tu nous présentes effectivement la thèse que tu mènes sur la réhabilitation écologique des Égalades en sciences de l'environnement. Et jusque-là, on a présenté ton parcours et puis quelles sont les intentions, quelles sont les méthodes que tu développes. Et ce qu'on vous propose, auditeurs et auditrices qui écoutaient La Forêt des Possibles, c'est que dans la deuxième partie d'émission, on va pouvoir se projeter dans une histoire, un imaginaire, mais on n'en dit pas beaucoup plus pour l'instant, donc restez à l'écoute. Et avant ça, je te laisse nous dire ce que tu as décidé de nous faire écouter pour respirer le long de ce ruisseau.
Alors c'est une chanson qui résonne beaucoup avec les questions qu'on s'est posées aujourd'hui, parce que c'est une chanson de Massive Attack qui date des années 90, qui s'appelle The Hymn of the Big Wheel, et qui traite en fait d'une discussion entre un père et son fils, et qui parle des questions justement du monde pollué et du monde qu'il aura demain, du monde qui évolue et de cette grande roue du temps qui avance. Donc on y est tous dans cette roue du temps, et comment est-ce qu'on arrive à avoir une conversation différente. C'est de l'album Blue Lines.
On se retrouve juste après. Belle écoute.
Sometime again, you turn green. and the sea turns red. My son, I said, the barber of accents over my head. The big wheel keeps on turning on a simple line, day by day. The earth spins on its axis. One man struggles while another relaxes. We sang about the sun and danced among the trees, and we listened to the whisper of the city on the breeze. Will you cry remorse in a lead-free zone, down within the shadows where the factories drone? On the surface of the wheel they build another town, and so the green come tumbling down. Yes, close your eyes and hold me tight, and I'll show you sunset sometime again. The big wheel keeps on turning on a simple line, day by day. The earth spins on its axis. One man struggles while another relaxes. Silent prayer, my hope hides in disguise, while satellites and cameras watch from the skies. An acid drop of rain recycled from the sea, it washed away my shadow, burnt a hole in me. And all the king's men cannot put it back again, but the ghetto soil will nature lie. On a simple line, day by day. The earth spins on its axis. One man struggles while another relaxes. The big wheel keeps on turning. On a simple line, day by day. The earth spins on its axis. One man struggle while another relaxes. The big wheel keeps on turning on a simple line, day by day. The earth spins on its axis. One man struggle while another relaxes.
Nous sommes de retour sur Radio Galère dans l'émission Écoforum, qui est en partenariat avec La Forêt des Possibles, qui invite chacun et chacune à trouver sa juste place dans une société écologique en retissant les échelles d'action du moi au nous et du nous au tout, et qui est donc une certaine façon de tirer un fil, de faire couler un fleuve d'un sujet à l'autre. Et c'est ce que nous faisons ce soir avec Hugo Maurer, qui nous présente la thèse sur la réhabilitation écologique qu'il est en train de mener au sujet du fleuve des Égalades. Et je vous avais annoncé une petite surprise après cette pause musicale, qui est celle de se lancer dans un exercice d'imaginaire. Et il se trouve qu'à Marseille, il y a un auteur que nous aimons beaucoup, qui est Alain Damasio, sur les questions des imaginaires.
Le grand Damasio,
qui a écrit un certain nombre de textes, et qui, dans ces textes, dont un des derniers, une des grandes œuvres qui s'appelle Les Furtifs, et qui parle de l'hybridation, qui est un concept que tu apprécies particulièrement, a un procédé narratif qui consiste à suivre un fil, mais dans ce fil, ce sont différentes personnes qui apportent chacun, chacune, leur regard et leur sensibilité particulière par rapport à ce qui est en train de se raconter. Et donc on raconte la même histoire, mais c'est un premier personnage, puis un deuxième personnage, puis un quatrième personnage, puis un cinquième personnage qui raconte sa perception de ce qui se passe. Et là, ce que je vais te proposer comme exercice, c'est qu'on va descendre le fleuve et on va faire la même chose. On va se projeter dans la peau d'une personne différente à chaque fois. Donc, tu auras 3 minutes pour nous raconter un peu comment est-ce que cette personne, dans sa sensibilité par rapport à là d'où il vient, peut percevoir ce fleuve-là. Et on va commencer par la source. Et à la question de la source, il y a la question du bassin versant. Et donc, je vais t'inviter dans un premier temps à nous donner un peu une présentation de ce que c'est qu'un bassin versant.
Alors si je reprends un peu aussi des mots ou des idées du collectif des Gamards, souvent on dit que le bassin versant, c'est le chemin de la goutte d'eau. La goutte d'eau, elle tombe et elle suit le chemin le plus court et le plus facile pour elle pour aller vers la mer. Et donc, si on se positionne ici autour de Marseille, le bassin versant des Égalades, c'est la goutte d'eau qui tombe, par exemple, sur le massif de l'Étoile et qui part... Son ruissellement arrive par la mer et rejoint ce cours d'eau des Égalades, mais elle aurait pu tomber un tout petit peu plus loin et passer de l'autre côté de la crête du massif de l'Étoile et donc du coup tomber dans le bassin versant de l'Arc et finir dans l'étang de Berre. Donc en fait, c'est vraiment de se dire, cette goutte d'eau, où est-ce qu'elle tombe et quand elle ruisselle, où est-ce qu'elle va, dans quel cours d'eau principal elle rejoint. Et donc c'est pour ça que quand on dessine finalement, sous une approche cartographique et qui peut devenir des approches cartographiques extrêmement sensibles et artistiques, on arrive en fait à dessiner presque les veines de la Terre. Donc ça, c'est un ouvrage assez emblématique aussi, les veines de la Terre, qui est extrêmement intéressant, qui m'a beaucoup inspiré aussi. Et donc, c'est vraiment de voir ces cours d'eau qui se rejoignent et qui arrivent finalement toutes à cette mer qu'on essaye tant bien que mal aussi de protéger. Donc voilà, la goutte qui coule, c'est ça un bassin versant.
Et donc la goutte qui coule et qui poursuit le trajet que lui propose ce fleuve des Égalades. Et alors là, c'est moi qui vais poser des endroits symboliques, donc je suis responsable de ceux que je choisis. Si jamais tu n'es pas d'accord avec ce que je propose un peu comme représentation symbolique. Moi, dans mon expérience sensible du ruisseau des Égalades, j'ai souvenir de l'avoir longé le long d'une petite route qui n'est pas très loin de l'hôpital Nord. Et donc je vais faire un premier arrêt sur le fait que l'hôpital Nord, je le considère comme une représentation d'un gros pôle scientifique. Et je te propose de nous proposer un regard d'un scientifique par rapport à ce fleuve.
Alors, ok, alors hôpital, bon, prendre soin. Donc il y a effectivement toute la science pour prendre soin dans un hôpital des hommes et des femmes. Mais donc moi, mon travail, c'est plutôt de prendre soin de la rivière. Et donc, en fait, si on étudie aujourd'hui, il y a un paquet de recherches qui ont été faites, notamment financées par l'Agence de l'eau et Euroméditerranée, sur la compréhension justement des fonctionnalités écologiques, donc ces liens du vivant et de la qualité écotoxicologique du ruisseau, donc toutes les pollutions croisées qu'on peut trouver. Et donc effectivement, là, quand on vient comprendre un ruisseau sous l'angle scientifique, eh bien, on fait des stations d'observation. On vient mesurer, compter les plantes, compter les petites algues, compter les petits gamards, justement, ces espèces de bestioles qui sont dans la rivière. Petite crevette, pour raconter l'histoire du gamard, qui est un bio-indicateur. Donc ça, c'est quelque chose de très technique, mais qui permet de savoir la bonne qualité écologique d'un ruisseau. Et quand il y a des gamards qui dansent, c'est-à-dire qui sont infectés par un parasite, ils remontent dans le cours d'eau, ils se font attraper par le poisson qui le gobe et qui le mange, et le parasite peut du coup se déployer dans le ventre du poisson derrière. Donc quand le gamard danse, c'est-à-dire que le parasite a l'ensemble de ces étapes qui permet au parasite de continuer à exister, de se développer, et donc quand le gamard danse, alors on a une bonne rivière. Et donc prendre soin de la rivière, c'est faire danser les gamards.
Et alors tu nous parles de danse, et la danse c'est un des arts qui se pratique à la Cité des Arts de la Rue, que l'on peut retrouver un peu plus bas sur le fleuve. Et donc Ça, c'est une invitation peut-être à faire un tout petit point d'étape sur qu'est-ce que c'est que cette Cité des Arts de la Rue, mmh. et nous proposer une approche sensible et artistique que l'on peut donner de ce ruisseau.
Alors, la Cité des Arts de la Rue, c'est un espace de culture où l'objet, ça a été de faire, de proposer un lieu pour les artistes qui travaillent dans l'espace public, qui font des prestations d'art de rue, de pouvoir répéter, donc d'avoir des halles couvertes, des rues couvertes, mais aussi des ateliers pour pouvoir créer des décors. Et il s'avère que cet espace-là, et c'était sur une ancienne exploitation industrielle qui, du coup, donnait sur le ruisseau. Et donc, en fait, historiquement, il y a eu un travail de fait, notamment par une conservatrice du patrimoine qui s'appelle Christine Breton, qui a travaillé sur le montage d'une aventure humaine qui s'appelle le GR 2013, un chemin de grande randonnée qui passe à travers le tissu urbain dense et qui justement ouvre cet aspect sensible des espaces, des grands espaces naturels. Quand on fait une randonnée, on s'extasie devant les espaces naturels. Ben là, on peut faire aussi la même chose dans des espaces urbanisés, dans des espaces industrialisés ou post-industriels autour de Marseille. Et donc, cette cité-là, il y a la rivière qui coule et en fait, il y a une cascade. Aujourd'hui, il y a une cascade fabuleuse qui, quand il y a de l'eau, parce qu'on est dans un régime méditerranéen de cours d'eau, donc quand il y a l'eau qui coule, on voit cette cascade fabuleuse. Et en fait, avant, cette cascade a été complètement ensevelie par les déblais de la L2 qui a été construite. Et en fait, c'est des artistes marcheurs, des artistes qui ont déblayé cette rivière et qui ont laissé un certain nombre d'objets qui sont des ersatz de notre temps, des témoins de l'hubris de l'homme et de la société, des hommes et des femmes de nos sociétés, où par exemple on trouve encore des grands bidons qui sont produits par les activités industrielles, et on donne à voir par une approche artistique ce que c'est que cette rivière et comment cette rivière digère nos excès. Donc ça, c'est vraiment ce concept d'hybridation de Damasio. Moi, je l'ai beaucoup entendu aussi dans la bouche des artistes qui travaillent sur cette rivière-là et qui explore comment cette rivière, à son rythme, digère nos excès, et où les berges, qui sont en fait un amoncellement, un amas de déchets, eh bien, ces berges font aujourd'hui le substrat de la biodiversité, une biodiversité qui est particulière, qui n'est pas très qualitative ni endémique, donc qui n'est pas vraiment du coin. On appelle ça des espèces rudérales pionnières, celles qui viennent coloniser des endroits qui sont compliqués, du lierre, des ronces, des orties. Des choses qui... Donc c'est de la vie, hein, certes. C'est les premières vies qui viennent et qui permettent après d'ancrer une biodiversité. Et donc, des artistes qui travaillent cette rivière, qui s'en occupent, c'est des artistes qui donnent à voir, qui récupèrent les déchets, qui les transforment en costumes, qui dansent avec. Donc on revient sur la danse. On parle de la danse du Capricorne, notamment dans notre grande fête du ruisseau avec les gamards. Donc voilà.
Et tu nous parles aussi de déchets, le déchet qui est en lien avec ce que tu nous expliquais un petit peu en amont, qui était sur l'économie circulaire, où il n'y a pas tant de déchets, mais plus une ressource qui peut se revaloriser ou non. Et cette question de la ressource, elle se retrouve un peu plus loin dans la façon dont on se dit que cet espace est potentiellement une ressource pour des aménageurs de ce territoire, parce qu'ensuite les égalades continuent et arrivent sur un énorme chantier marseillais qui s'appelle Euromed qui est une espèce de friche permanente et qui se pose la question de savoir comment est-ce qu'il peut le valoriser, le revaloriser. C'est là où ça fait aussi un lien avec tous tes travaux sur la question des matériaux, sur la question du déchet, sur la question du sol, la question de comment est-ce qu'on réagence tout ça. Et donc je te laisse maintenant nous proposer la vue que peuvent avoir des aménageurs sur ce territoire, sur cette rivière.
Alors, donc si on reprend le discours et qu'on reprend les aménageurs, justement ces décideurs qui viennent et qui pataugent dans la rivière et qui se rendent compte que c'est compliqué d'avoir des enfants qui se baignent dans un parc, ben c'est compliqué de faire une rivière à ciel ouvert en partant d'une friche industrielle comme la friche du Canet. En gros, si je donne des grandes masses, c'est 160 000 mètres cubes de terres impactées, on parle ça de remblais, donc de matériaux qui sont pollués, qu'il faut transformer en sol qui abrite une biodiversité et qui font revenir des arbres, qui font revenir de la fraîcheur, qui permettent de capter de l'eau. Donc il faut transformer ce lieu donc ce qui était aujourd'hui un faisceau ferré, donc c'est des trains qui passent au-dessus. C'est quelque chose de très technique, ça demande d'avoir beaucoup de béton, beaucoup de trucs durs, des rails, des cathéters qui passent pour pouvoir amener de l'énergie. Donc bref, toutes ces choses-là, il va falloir les enlever et puis faire venir du coup des matériaux qualitatifs pour accueillir la vie. Donc il y a, si on fait un estimatif, c'est 62 000 camions qui doivent se déplacer sur la ville de Marseille pour juste gérer ce futur parc. Donc ça veut dire importer des matières fertiles pour le parc, mais aussi exporter des déchets et les amener quelque part. Un centre de stockage, un centre de traitement, j'en passais des meilleurs. Donc là, l'objet, et notamment des projets de recherche qu'on monte avec Euroméditerranée, avec Université Aix-Marseille, le BRGM, qui sont du coup tout un collectif de gens qui essayent de faire émerger des nouvelles façons de fonctionner et d'aménager différemment, Euroméditerranée étant très actif sur ces questions, c'est de dire comment on peut travailler avec l'existant, comment on peut bien comprendre le site, comment on peut bien comprendre notre friche et essayer de faire en sorte de faire des sols vivants, de refaire des sols vivants avec l'existant, avec les matériaux du territoire. On ne parle plus de déchets, on parle de matières usagées. Comment est-ce que nos biodéchets alimentaires, on les composte, on fait du compost. Comment ce compost, bien, on le rajoute à une terre qui pourrait venir d'un chantier, on est venu creuser pour faire un parking. Comment est-ce qu'on vient chercher des sédiments, donc des matériaux fins, du sable, sédiments qui pourraient être issus, par exemple, je ne sais pas, d'un bassin de la Société des Eaux de Marseille qui potabilise nos eaux et qui a besoin de bassins pour stocker son eau en vue du traitement. Ben, tous les sédiments qui viennent des fleuves de la Durance, du Verdon, et qui viennent chez nous pour abreuver les Marseillais, toute cette eau-là, ben, elle charrie des sédiments, elle charrie des matériaux minéraux qui peuvent devenir une partie de cette future terre fertile. Et donc l'objet de ma recherche, c'est de dire comment on arrive à travailler avec ces matières usagées pour faire des terres fertiles avec ce qui est plus des déchets.
Et alors, tu nous parles de ce qui est vivant, et donc je t'invite à pouvoir continuer sur finalement une osmose du vivant, une harmonie complète, celle où il y a l'humain, le non-humain, végétal, animal, qui se retrouvent autour de ce fleuve-là. Tout à l'heure, tu nous disais en préparation que tu travaillais avec des personnes qui avaient voulu sortir des approches écologiques qui ne regardaient que la nature sans considérer l'humain. Et donc maintenant, je te propose de nous raconter ce panorama complet.
Vaste sujet.
Tu renvoies la diplomatie avec le vivant, Baptiste Morisot, qui est un des auteurs que tu aimes bien.
En fait, dans cette idée de vouloir retisser des liens entre humains et non-humains, de pouvoir tisser des liens entre cette matière et cette biodiversité, pour moi, le médium que j'ai trouvé finalement pour ouvrir une discussion, c'est de m'intéresser sur la question du sol et du sol vivant. Parce que dans ces grands projets d'aménagement, le sol, c'est ce qui coûte beaucoup, beaucoup d'argent parce que c'est des déchets à traiter, mais c'est aussi des matières à faire revenir. Et donc, en fait, c'est un caillou dans la chaussure pour tout le monde. Et par ailleurs, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'activistes, de citoyens engagés qui s'intéressent à la question des sols vivants, des friches, de la protection de ces sols. Et donc du coup, c'est une manière aussi de pouvoir avoir un acte plus engagé dans mon métier et de dire que on arrive en fait à faire revenir du vivant dans nos villes, de pouvoir faire cœur en fait finalement avec ce qui nous permet de nous nourrir, parce que ce sol, c'est un sol qui est productif, c'est le substrat qui permet de faire tout ce qu'on consomme, c'est ce qui permet aussi de traiter de l'eau, c'est ce qui permet aussi de construire, c'est ce qui permet de vivre. Donc en fait, c'est ce médium, cette espèce de fil qui permet d'ouvrir une conversation, à mon avis, en tout cas là, moi, dans mes recherches, si je peux faire un lien entre justement humain, non-humain, projet, trajectoire de soutenabilité, comment est-ce qu'on se projette collectivement dans le futur et dans un futur désirable, le sol, c'est un support, sans mauvais jeu de mots, qui permet de le faire bien.
Et la question du sol, c'est un sujet qu'on a également abordé dans nos émissions avec Jérôme Mazas, qui était venu nous présenter l'association Germe, et j'imagine que Jérôme, tu le connais. On a aussi parlé avec les représentants de Mycotopia, de la façon de faire des forêts urbaines et d'avoir des grands mycéliums qui pourraient venir donner de la vie à ce sol-là et notamment comment est-ce que ça peut se faire en ville. Et le temps file et on pourrait en parler pendant encore des heures. Il y a un événement dont tu as envie de nous parler, Hugo, qui aura lieu le 5 décembre prochain, qui s'appelle Ça va marcher, qui tourne autour de cette question du sol et je t'invite à pouvoir le présenter.
C'est rigolo que tu parles de Jérôme parce que du coup, effectivement, il est très présent et très actif dans le collectif. Le collectif, c'est collectif Sol Vivant Terre Fertile. C'est un collectif, encore une fois, qui n'est pas encore vraiment incarné, il n'y a pas d'association. L'objet, ça a été de se dire, différents acteurs, que ce soit des gens qui sont en lutte sur des terrains, justement, à protéger, à sanctuariser, des terrains vivants qui sont sanctuarisés par un urbanisme qui est une pression et c'est presque une prédation de ces espaces vivants. Donc des acteurs très engagés, des scientifiques, les artistes marcheurs du GR 2013, bref, tous ces gens qui ont à cœur le territoire marseillais, ça a été de dire voilà comment est-ce qu'on arrive à cheminer ensemble. Donc c'est pour ça le ça va marcher, c'est que notre action, bah, on va avoir un impact, mais aussi on marche. Donc on explore ces lieux de lutte et on explore les différents projets qui ont un attrait sur cette question du sol. Et par ces visites-là, on arrive collectivement à faire émerger une voix dans le cadre de la journée des sols vivants qui a lieu le 5 décembre. Et donc de 9h à 17h à l'œuvre Allemand, au 41 rue Saint-Savournin, dans le 5e à Marseille. On se réunit tous, donc on espère vous voir nombreux. L'idée étant d'ouvrir une conversation justement sur cette question des sols vivants et de voir comment on arrive à mettre ce sujet qui est, je veux dire, le sol, c'est pas très sexy, enfin, je veux dire, c'est plein de bestioles, ça grouille, ou alors ça sent pas bon parce que du coup c'est de l'humus, c'est du toutes ces choses-là, c'est pas très ragoûtant et pourtant c'est tellement essentiel. C'est tellement essentiel et c'est extrêmement riche. Il y a beaucoup de connaissances à faire, c'est un champ de recherche qui est infini. Et donc collectivement, là, l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce que nos balades situées, comment est-ce qu'on par nos balades, par nos approches sensibles du territoire, on arrive à politiser le discours et à faire en sorte que ces espaces naturels, ces lieux, donc là, je reviens au tout début de l'émission, donc c'est pour ça la boucle est bouclée, c'est intéressant. Ces espaces qui sont sans projet, comment on arrive à leur donner un projet par notre action collective?
Et alors peut-être que cette dernière question avant de rendre l'antenne, c'est est-ce que tu sens que ça y est, l'oreille est attentive et que le chemin se trace?
Alors, il y a des oreilles attentives, c'est évident, mais il y a aussi une telle pression, une telle instrumentalisation de ces questions que de temps en temps on se demande si on va dans le bon sens. Nous, on essaye de faire en sorte d'artificialiser le moins possible et même de désartificialiser. Et donc moi, il y a un sujet, bon, c'est une note... pas trop d'espoir, mais j'ai toujours peur en fait comment les résultats de ma recherche peuvent être instrumentalisés. C'est-à-dire que si on fait revenir la nature en ville, et bien vu que la loi c'est zéro artificialisation nette, ça veut dire qu'on peut artificialiser ailleurs. Ça veut dire que des terres qui sont de bonne qualité, donc des friches, des lieux de vrais vivants, on va pouvoir les artificialiser parce qu'on a fait revenir un parc urbain grand, 14 hectares, en ville, et donc du coup, ça peut permettre d'aménager ailleurs. Et ça, c'est terrible, parce que ce lieu, j'ai dit, c'est quoi? Un sol vivant, c'est des milliers d'années, c'est 1500 ans, 2000 ans à faire. Donc il faut 2000 ans pour refaire un sol vivant. Là, on est en ville, il va y avoir beaucoup de passages, beaucoup de pression humaine, beaucoup de pression anthropique. Comment est-ce qu'on peut comparer ce parc urbain qui part d'une friche avec une friche agricole ou un espace de naturalité? Pour moi, ça me paraît complètement inconcevable, et pourtant, c'est ça la réalité. Donc des oreilles attentives, il y en a. Il y a des combats à mener partout, on sent que ça bouge, on sent qu'il y a une mobilisation, et c'est pour ça qu'on continue d'agir. C'est pour ça que par mes recherches, par mon action aussi au sein de mes différentes casquettes professionnelles ou personnelles, j'essaye d'avoir à mon humble niveau un peu d'effet sur ces questions.
Ça fait penser au livre Marseille, ville sauvage de Baptiste Lanaspez, où là il y a la question de pouvoir réapporter une forme d'approche sauvage d'une certaine façon qui pourrait ouvrir la porte à un aménagement sauvage à d'autres endroits. et qui finalement te pose la question de savoir quels sont les effets, mais on pourrait en parler pendant encore 1000 ans, enfin 1000 ans, non, 2000 ans pour faire,
2000
un,
ans
sol,
pour faire un sol,
2 heures pour faire une émission qui pourrait être encore plus dense et complète, mais le temps nous est compté et il est temps de rendre cette antenne.
Merci Marc.
Un grand merci à toi Hugo Maurer d'être venu nous présenter ta thèse sur la réhabilitation écologique des égalades en sciences de l'environnement ce soir, et donc d'avoir été avec nous dans le cadre de cette forêt des possibles, suivi le fleuve de cette égalade au sens propre, et d'avoir aussi suivi par ta présentation un fleuve qui nous amène de comment est-ce qu'un individu qui se pose certaines questions et qui passe de son moi va aller vers le nous, à créer des collectifs, en rejoindre d'autres. Ici, c'est le collectif des Gamars, c'est NeoEco, c'est les personnes que tu as pu rencontrer dans le cadre de ta recherche pour faire un CIFRE. Peut-être qu'on peut dire juste que c'est qu'un CIFRE.
Ouais, c'est un moyen de financer une thèse, et une thèse qui du coup est financée par une institution, une association ou un acteur économique. Dans mon cas, c'est un acteur économique. Et en gros, la moitié du temps de l'étudiant doctorant est au sein de l'institution ou de l'entreprise, et l'autre moitié est sur sa recherche. Donc c'est des recherches qui sont beaucoup plus opérationnelles. Moi, j'ai mis l'angle sous l'angle de la recherche-action, où du coup, on avance en marchant et on espère que c'est de la science concrète et qui fait changer les choses.
Voilà. Et donc, pour continuer ça, c'est comment est-ce que cette recherche-action concrète, à son échelle, participe à transformer la société et donc passer du moi au nous avec des grands enjeux où là, on a parlé d'aménagement, du rapport au vivant, du rapport à la sensibilité, du rapport aux soins. Et donc, c'est plein de portes ouvertes que nous vous invitons, celles et ceux qui nous écoutent, à continuer à creuser et à nous émerveiller de ce chemin de transition qui nous est proposé. Et nous rendons cette antenne ce soir et on vous dit à très bientôt. Merci Hugo,
merci
Juliane et Claire pour qui c'était
ta
toute première. Et donc là, tu venais en repérage, et à très bientôt.